RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi des infos d'Indonésie et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le président assistera au 32e sommet de l'ASEAN à Singapour. L'Indonésie soulève de nouveau les questions de protection des travailleurs migrants lors du 32e sommet de l'ASEAN. L'Indonésie est prête à devenir un partenaire de l'acheteur global. L'ambassadeur de la Corée du Sud a affirmé que la Corée du Sud et l'Indonésie continueraient le projet de combat KFX-IFX. 13 pays discutent de la gestion des catastrophes à Aceh. Surabaya accueille l'événement international Nordic Talk. Voici le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo assistera au 32e sommet de l'ASEAN à Singapour. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, participera également au 32e sommet de l'ASEAN de 4 jours. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Arman Atanasir, lors d'une conférence de presse tenue à Jakarta vendredi le 20 avril. Nous voudrions transmettre le plan des activités de la Madame ministre indonésienne des Affaires étrangères et aussi le président qui assistera à la réunion ministérielle de l'ASEAN ainsi que le sommet de l'ASEAN à Singapour. La réunion ministérielle de l'ASEAN se tiendra les 26 et 27 avril et se poursuivra ensuite avec le sommet de l'ASEAN les 27 et 28 avril. Arman Atanasir a ajouté que Singapour, en tant qu'hôte du 32e sommet de l'ASEAN et des dirigeants de l'ASEAN en 2008, a spécifiquement soulevé le thème « Construire une ASEAN résiliente et innovante ». Il y a des choses qui intéresseront l'Indonésie au 32e sommet de l'ASEAN, comme la coopération en matière de cybersécurité et les efforts du gouvernement d'encourager dans le cadre de l'ASEAN à promouvoir le réseau des villes intelligentes de l'ASEAN. Le 32e sommet de l'ASEAN pourrait également produire certains documents clés. La vision des dirigeants de l'ASEAN résilient et innovante, une déclaration des dirigeants de l'ASEAN sur la coopération en matière de cybersécurité et le concept du réseau des villes intelligentes de l'ASEAN. La question de la protection des travailleurs migrants en Asie du Sud-Est est l'une des questions relancées par l'Indonésie lors du 32e sommet de l'ASEAN qui aura lieu à Singapour les 27 et 28 avril. Lors de la réunion des sessions plénières et de la retraite, l'Indonésie, qui sera représentée par le président Joko Widodo et la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, discutera à nouveau du renforcement de la coopération en matière de la protection des travailleurs migrants entre les 10 pays membres de l'ASEAN. Ceci a été transmis par le directeur politique de la coopération politique de sécurité de l'ASEAN du ministère indonésien des Affaires étrangères, Chandra W. Yuda lors d'une conférence de presse à Jakarta vendredi le 20 avril.
Tentu hal lain yang akan kita dorong dan menjadi perhatian adalah mengenai penguatan.
Bien sûr, d'autres choses qui seront encouragées et concernées est sur le renforcement de la coopération de la protection des travailleurs migrants par la mise en œuvre du consensus de l'ASEAN sur la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants. Comme nous le savons, le consensus a été signé par le chef de l'État de l'ASEAN en novembre 2017 aux Philippines. En outre, Chandra a expliqué que le 32e sommet de l'ASEAN était un forum approprié pour discuter de diverses questions régionales en Asie du Sud-Est et la façon d'aller de l'avant, y compris la question de la protection des travailleurs migrants. Jusqu'à présent, la protection des travailleurs migrants en Asie du Sud-Est avait été convenue par les 10 pays membres de l'ASEAN à travers le consensus de l'ASEAN sur la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants. Les accords régissent un certain nombre de droits détenus par chaque travailleur migrant, allant du droit de détenir un passeport, le droit à un traitement et un revenu équitable sur le lieu de travail, le droit de communiquer, le droit de participer à des associations ou syndicats dans le pays bénéficiaire, au droit de déposer en cas de violation du contrat de l'emploi. En outre, le consensus de l'ASEAN réglemente également les droits des familles des travailleurs migrants, y compris le droit de rendre visite aux travailleurs migrants travaillant dans l'un des pays de l'ASEAN. Le ministre du Commerce, Engartes Tolukito, a lancé la 33e exposition du commerce de l'Indonésie, ou TEI 2018, vendredi, au bureau du ministère du Commerce, Jakarta. Dans sa déclaration écrite, le ministre Engartes Tolukito a déclaré que TEI était l'un des efforts stratégiques et l'engagement du ministère du Commerce pour augmenter les exportations de manière durable et diversifier les marchés d'exportation. TEI est également la plus grande exposition business-to-business ou B2B en Indonésie, ainsi qu'un guichet unique pour les acheteurs à la recherche des produits indonésiens de haute qualité et compétitifs. La plus grande exposition internationale en Indonésie se déroulera du 24 au 28 octobre 2018 à Indonesia Convention Exhibition de Bumi Serpong Damai à Tangerang, Banten. Le ministre du Commerce, Engartes Tolukito, a déclaré que TEI fournit des produits compétitifs et montre que l'Indonésie est prête à s'associer avec des hommes d'affaires du monde entier. TEI 2018 cible des transactions d'1,5 milliard de dollars américains et 28 000 visiteurs. Le ministère du Commerce cible également 1 110 participants pour participer à l'exposition. Les participants comprennent des producteurs, des exportateurs, des fournisseurs de produits et de services indonésiens qui veulent élargir le marché à travers le commerce avec les acheteurs internationaux qui ont y participé cette année. L'ambassadeur de Corée du Sud en Indonésie, Kim Chang-beom, a déclaré que la Corée du Sud et l'Indonésie continueraient le développement du projet de combat 4.5 KFX-IFX. L'ambassadeur Kim a déclaré jeudi que KFX-IFX était un projet de coopération intergouvernementale à long terme qui se déroule bien. Le gouvernement sud-coréen a des relations étroites avec le ministre de la Défense, Riamiza Triakudu, et continue de mener des consultations sur le développement du projet de chasseur KFX-IFX qui peut prendre en charge des capacités furtives ou non détectées par radar. Le projet KFX-IFX est un projet de coopération à long terme entre la Corée du Sud et l'Indonésie pour renforcer l'indépendance de l'industrie de la défense au milieu de la présence de grands pays dans le développement de l'outil principal du système d'armement mondial. Des représentants de 13 pays discutent de la gestion des risques de catastrophes à l'atelier international organisé par le ministère des Affaires étrangères à Banda Aceh. Le fonctionnaire de la Direction générale Asie-Pacifique et Afrique du ministère des Affaires étrangères, Dewi Savitri Wahab, a dit récemment que les participants viennent de la région du Pacifique, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Sud et Caraïbes. La réunion qui s'est tenue dans la province d'Aceh jusqu'au 26 avril a également discuté du changement climatique qui fait partie maintenant de la catastrophe mondiale. Selon Dewisa Vitry, cette réunion internationale est une forme d'engagement d'Indonésie à la préparation aux catastrophes. L'Indonésie est l'une des zones sujettes aux catastrophes. L'élection d'Aceh pour accueillir l'événement, car Aceh avait connu le tremblement de terre et le tsunami à la fin de 2004. De cette catastrophe, le peuple d'Aceh possède la résilience face à une catastrophe. La ville de Surabaya accueille un événement international intitulé Nordic Talk qui est assisté par quatre ambassadeurs des pays nordiques tels que la Norvège, le Danemark, la Finlande et la Suède samedi le 21 avril. Lors d'une conférence de presse au gouvernement de la ville de Surabaya jeudi, le secrétaire général de l'ambassadeur de la Norvège, Simon Johan Wilroth, a expliqué que la raison de choisir Surabaya parce qu'elle était considérée comme une ville développée rapidement et a de nombreuses réussites de faire face aux problèmes de la ville. Selon lui, pendant deux jours, les participants de quatre pays nordiques apprendront et demanderont la solution pour résoudre les questions de la mondialisation à Surabaya. C'est parce que Surabaya est considérée capable de gérer les problèmes de la mondialisation. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les nouvelles de l'Indonésie. Des informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Chers auditeurs, voici donc les infos de l'Indonésie. La première info vient de Magetan, Java Est. Plusieurs 1265 élèves de maternelle et l'association de la petite enfance au Himpaudi de Ponorogo et Madiun, Java Est, sont venus mercredi à la base aérienne Iswahyudi à Magetan, Java Est. Une telle visite des élèves de maternelle et l'association de la petite enfance au Himpaudi qui était accompagné par les éducateurs, a été accueilli par le chef du développement aérospatial de la force aérienne de l'armée de l'air Iswahyudi, le major POM Dwi Wahyudi. La base aérienne de l'armée aérienne indonésienne, ou TNI AO, Iswahyudi, est une installation militaire stratégique nationale, car il y a des escadrons de chasse de l'armée aérienne d'Indonésie. Bien que le statut soit très stratégique et une zone restreinte pour le public, mais il y a certains côtés qui peuvent être visités par le public avec un certain permis et devenir l'une des célèbres destinations éducatives. Le major POM Dwi Wahyudi a déclaré que la sensibilisation du public à l'importance des connaissances aérospatiales encourage la base aérienne de l'armée de l'air Iswahyudi a commencé à nettoyer et à construire un bon système de service public. Ensuite, l'info de Solok Dusut, Sumatra Ouest. La communauté de Nagari ou village coutumière Koto Baru en présence de Solok Sud, Sumatra Ouest, a donné 51 rumah gadang, soit grande maison, au gouvernement local pour être revitalisé afin de soutenir le tourisme Saribu Rumah Gadang, soit 1000 grandes maisons. Le chef des destinations du Bureau de tourisme et de la culture de Solok Sud, Eko Espito, a dit à Padang Aro, toutes 51 grandes maisons sont situées en région du village traditionnel le plus populaire de l'Indonésie pour revitaliser. Les grandes maisons proposées pour la restauration sont situées dans la zone de patrimoine culturel depuis décembre 2017. Après la restauration des grandes maisons a été réalisée sur la cible pendant un an et demi, le réseau va publier les règles pour la gestion des grandes maisons. Eko a dit, pour améliorer les services touristiques, le gouvernement local a formé des guides pour accompagner les touristes. Maintenant, 17 guides touristiques de Solok Sud suivent également la compétence du gouvernement de la province Sumatra Ouest à Bukit Tinggi. Plus tôt, le président Joko Widodo a lancé la revitalisation de la zone dans 1000 grandes maisons qui a remporté le premier prix du prix Personne Indonésia ou API en 2017 dans la catégorie du village traditionnel le plus populaire. La dernière info vient de Sleman, Yogyakarta. Kraton Yogyakarta a organisé une cérémonie traditionnelle Labuhan Ageng Mengemak Api dans le cadre d'une célébration pour marquer Sri Sultan Hamengkubuwono X et monter sur le trône. La série d'événements a commencé lundi avec la livraison du barampé ou des œuvres de Kraton Yogyakarta Hadiningrat au chef de sous-district d'époque à Depok Sleman. Uba Rampe est ensuite promené par les courtisans à soumettre au concierge du Mont Merapi, Mas Kliwon Surak Soehargo, ou familièrement appelé Pak Asi. Uba Rampe est ensuite pris à Joglo Kinarjo, la ruine de la maison de Mbah Marijan. Labuhan Merapi est régulièrement organisée chaque année à 30 Rejib dans le Kalong Dere Javani. Le régent de Sleman, Sri Purnomo, dans un discours lu par le secrétaire régional adjoint de la gouvernance et de la protection sociale, Purwatno Widodo, a dit que la cérémonie de Labuhan est interprétée comme une offrande de la prière à Dieu Tout-Puissant, qu'avec sa grâce, le roi Ngayogyakarta Hadiningrat et les habitants de Yogyakarta obtiennent la sécurité ainsi qu'une marque de respect pour les ancêtres du palais Ngayogyakarta Hadiningrat. Chers auditeurs, c'était les infos de l'Indonésie pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 21 avril est le jour de Kartini. Raden Ajeng Kartini est un pionnier de l'égalité des femmes dans l'éducation en Indonésie. Habis gelap terbitlah terang, soit appauvri, obscurité à la lumière, est le titre du livre d'une collection de lettres de Raden Ajeng Kartini. Les lettres ont été écrites à ses compagnons aux Pays-Bas sont devenues la preuve du grand désir d'une Kartini pour libérer son peuple des discriminations qui ont été retranchées dans sa journée. La lutte de Kartini n'est pas seulement écrite sur le papier, mais aussi prouvée en établissant les écoles gratuites pour les filles à Jepara et Rembang, Java Central. Les efforts de la fille du régent de Jepara a ouvert la voie des femmes aux diverses autres régions. Depuis lors, les écoles des femmes sont nées et cultivées dans diverses régions du pays. En raison de l'ampleur des services de Kartini au peuple de l'Indonésie au nom de l'État, le gouvernement du président Sukarno a promulgué le décret présidentiel de la République d'Indonésie numéro 108 l'année 1964 qui désigne Kartini comme héros national, prévoit également l'anniversaire de Kartini le 21 avril comme la journée de Kartini qui est célébrée chaque année. Le 21 avril 1995, Amir Mahmud, figure militaire et ancien ministre indonésien, est mort. Amir Mahmud est un général militaire indonésien, témoin de la signature de la lettre de commandant du 11 mars, ou Super Semar, un document de transfert de pouvoir du président Sukarno au général Suharto. En plus d'être ministre de l'Intérieur, Amir Mahmud a également été président de l'Institut des élections. Les élections législatives de 1971, 1977 et 1982 ont été organisées sous sa supervision. En décembre 1965, il a été nommé commandant du commandement militaire régional 5 Jaya et était responsable de la sécurité de Jakarta et ses environs. En 1982,
Il a été élu président de l'Assemblée consultative populaire de la République d'Indonésie en même temps que président du Parlement. Il a pris sa retraite en 1987 après avoir terminé son mandat de président de l'Assemblée consultative populaire et du Parlement. Le 21 avril 2009, l'inauguration de la Bibliothèque numérique mondiale. La Bibliothèque numérique mondiale est une bibliothèque numérique entre les pays administrés par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ou l'UNESCO, et la Bibliothèque du Congrès des États-Unis. Cette bibliothèque est conçue comme une source de référence de divers documents importants du monde, accessible gratuitement. La mission de cette bibliothèque est de développer la compréhension entre les nations et les cultures, d'élargir le contenu et la variété des contenus sur Internet, de fournir du matériel didactique de base aux enseignants, aux universitaires et aux passionnés généraux, et de renforcer la capacité des institutions partenaires pour réduire les cartes numériques intra- et interétatique. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Indonesiaku. Mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur et en titre Muslim Fashion Festival ou MUFES 2018, soit le Festival de la mode musulmane 2018. Restez toujours avec nous, le service mondial de la Radio République d'Indonésie, la Voix de l'Indonésie. Le Festival de la mode musulmane au MUFES 2018 d'Indonésie s'est tenu du 19 au 22 avril à Jakarta Convention Center par la Chambre indonésienne de la mode, ou IFC, avec une société privée en tant qu'organisateur. MUFES 2018 a également pris de nombreuses parties, telle que la communauté de hijabers, telle que hijaber communauté et hijaber mom communauté. Cet événement a également pris l'Agence de l'économie créative, le ministère de l'industrie et le ministère de coopératives et des petites et moyennes entreprises. L'événement de cette année semble être plus important que les années précédentes parce que la célébration a commencé depuis octobre 2017 sous le nom de Road to MUFES 2018. Cet événement est un événement éducatif sur les tendances de la mode dans plusieurs villes indonésiennes telles que Bandung, Padang, Surabaya, Makassar, Yogyakarta et Jakarta. Road to MUFES 2018 vise à inviter différentes parties à participer à cette semaine internationale de la mode musulmane et introduit la tendance de l'industrie de la mode musulmane dans ce pays avec le thème Trend Muslim Fashion 2018-2019. MUFES 2018 est dirigé comme une arène qui offre de nombreuses options et met en avant la tendance de la mode des musulmans qui se réfère à la tendance mondiale à être acceptée dans le monde entier. Dans le MUFES cette année, 100 designers présentes. La mode avec des styles différents, des styles conventionnels aux styles contemporains et le concepteur ont préparé des vêtements en accord avec Indonesia Trend Forecasting 2018. Comme les années précédentes, il y a des foires commerciales à cet événement. Environ 200 marques de mode musulmane sont prêtes à présenter son design phare. MOVEFEST 2018 est présenté avec l'amélioration de la qualité, de sorte qu'il peut être un baromètre des tendances mondiales de la mode musulmane et des centres commerciaux de la mode du monde. Ainsi, l'industrie de la mode musulmane en Indonésie peut jouer un nouveau potentiel économique pour créer des débouchés commerciaux au niveau national et international. Des activités inspirantes et interactives sont également organisées, telles que des séminaires, des ateliers, des talk-shows, des auditions du modèle musulman Next Fest MOVEFEST 2018 et des concours de dessin. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, secrétaire, bienvenue au Magazine Culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons l'un des objets touristiques dans le centre de Halmahera, au nord des Moluques. Restez à l'écoute. Central Halmahera est une résidence dans le nord des Moluques qui a l'attraction touristique. L'un des objets touristiques qui peuvent être visités sur l'île de Halmahera, en particulier le centre de Halmahera, est la grotte de Bokimoruru. La grotte est située à Sagian en amont, précisément dans la zone des collines du village de Sagia, la région de Central Halmahera dans la province des Moluques du Nord. La grotte est bien connue comme une grotte sans point sans fin. La grotte naturelle a été découverte par une expédition française en 1996. Le nom de Bokimoruru a été pris d'un nom de princesse qui aurait vécu dans cette région. Bokimoruru signifie princesse qui est emportée. Selon l'histoire de la population locale, à la rivière Sagayen, une princesse du sultanat de Tidore qui prenait un bain et jouait de l'eau a emporté par le courant de la rivière Sagayen en amont jusqu'à Laval. La grotte de Bokimoruru ou la grotte de Lubang Batu a environ 30 km de long et de nombreuses voies. Bien que cet objet touristique ne dispose pas encore d'installations complètes, de nombreux touristes nationaux et étrangers viennent dans cette grotte. Si vous voulez visiter cet endroit, vous devez être guidé par les gens locaux car cet objet touristique a un terrain accidenté. La distance d'Oweda, la capitale de Central Halmahera, au village de Sagia, le district du nord d'Oweda, est d'environ 30 km. Si vous passez la route terrestre, cela prend environ 4 heures en voiture, parce que l'état de la route n'est pas bon. En arrivant à Sagia,
Votre voyage doit être poursuivi en parcourant la rivière de Sagia jusqu'à 5 km. Le chemin qui doit être passé en marchant est assez difficile, car il est humide et plein de boue. Ainsi, les habitants suggèrent d'utiliser un bateau à moteur nommé Katinting. Si vous visitez le bateau Katinting, vous prenez environ 30 minutes. Au long du voyage, vous pouvez profiter des gazouillis des oiseaux parmi les abeilles qui poussent le long des rives de la rivière. En entrant dans la grotte Bokimururu, vous entendrez le son des chauves-souris. Devant la porte, il y a une terre qui s'appelle Boulou. Boulou est le nom de terre au milieu de l'eau. Boulou devient généralement l'un des lieux de repos des visiteurs. Chers auditeurs, avant d'entrer dans la grotte de Bokimururu, vous devez préparer la torche comme éclairage lorsque vous êtes dans la grotte. Dans la grotte, vous pouvez voir des stalactites et des stalagmites qui décorent la grotte, ainsi des grands piliers qui ont des formes uniques. Il y a aussi la stalagmite qui a une forme humaine. Les gens locaux l'appellent bateau sembahyang ou en français signifie pierre de prière. Si vous marchez dans la grotte aussi longtemps que 8 km, vous trouverez beaucoup de beaux ornements qui ont beaucoup de genres de formes comme stupa et temple, visages humains et d'animaux. La grotte Bokimururu jusqu'à présent n'est pas connue son point sans fin jusqu'à où il se termine. Parce que dans la partie la plus profonde, son emplacement se rétrécit, donc il est difficile pour les gens de le passer. En 1937, Bernhard, un frère de la reine Wilhelmina, la reine hollandaise, a visité la grotte. Il peut être prouvé avec sa main écriture sur le mur dans la caverne. Et en 1976, l'expédition française est également venue à la recherche de la grotte, mais il ne pouvait pas également trouver le point sans fin de la grotte. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La grotte Bokimururu ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. Merci de nous avoir suivis. À demain.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présent les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur et un petit titre, traité des feuilles de corosso pour les médicaments pulmonaires. Donc, restez toujours avec nous, le Service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. Corosso, sous son nom latin Annona muricata L, est une plante bénéfique provenant des Caraïbes, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Cette plante a été apportée par les Hollandais à l'archipel au 19e siècle. Corossol peut facilement pousser partout, mais il est préférable de le planter dans une zone assez aquatique. Cette plante pousse ensuite et se développe dans différentes régions d'Indonésie. En Indonésie, il existe plusieurs appellations pour les corossol, telles que Nangka Sebrang, Sirsak, Sundanais, Nangka Landa, Javanais, Nangko Belando, Palembang, et ainsi de suite. Au début, la partie la plus utilisée est le fruit. Autres parties de corossol sont rarement utilisées. Les feuilles de corossol sont devenues populaires après les résultats de la recherche indiquent que le contenu dans les feuilles de corossol peut traiter le cancer. Avec le passage du temps et le développement de la science, les feuilles de corossol sont déclarées la partie la plus bénéfique. En général, les feuilles de corossol contiennent des composés proactifs tels que les acétogènes, l'anocatacine, l'anocataline, l'anonol, la caclurine, l'acide gentisique, l'anomourine, l'acide linoléique et d'autres. Tous les ingrédients sont efficaces pour la santé. Les feuilles de corossol ont un très bon contenu pour guérir diverses maladies. L'une d'entre elles, la maladie pulmonaire. C'est parce que dans les feuilles de corossol, il y a une teneur acétogénique qui est utile pour inhiber le développement de virus qui attaque les poumons. En outre, les feuilles de corossol contiennent également des composés antioxydants qui peuvent tuer les cellules cancéreuses trouvées dans les poumons. Voici comment traiter les feuilles de corossol pour traiter les maladies pulmonaires. Prenez 10 à 15 feuilles de corossol qui ont été séchées, puis faites bouillir avec 3 tasses d'eau jusqu'à ce qu'un verre d'eau restant. Une fois refroidi, filtrez l'eau et ensuite boire régulièrement autant que 3 fois par jour. Une autre source écrit, 10 à 12 feuilles de corossol qui ont été lavées sont séchées au soleil pour sécher. Après, cela écrasé, puis séché dans le four, puis levé. Ensuite, prenez 2 cuillères de poudre de feuilles de corossol infusées avec une tasse d'eau chaude. Remuez et laissez reposer jusqu'à 5 minutes. Faites-le 2 fois par jour. Bien qu'il ait un effet positif, mais pour consommer l'eau des feuilles de corossol bouillies, devrait toujours être fait avec la supervision de médecins à base de plantes ou des personnes qui comprennent l'utilisation de plantes médicinales pour le traitement. Parce que l'utilisation excessive et les erreurs de traitement peuvent également aggraver l'état des poumons. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur. Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, serviteur du service mondial de RRI, La Voix de Nizi, où que vous soyez, revenez avec moi dans le magazine musical, un programme musical qui vous présente la musique indonésienne, soit traditionnelle ou moderne. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présenterons le groupe musical Haivai. Pour commencer notre programme musical aujourd'hui, écoutez une chanson intitulée Indahnya Dirimu. Bonne écoute.
Thank you.
Serviteur, c'est dans la chanson intitulée Indahnya Dirimu, chantée par Hi-Fi. Cette chanson est le premier single du groupe musical formé à Jakarta en 2009. Les personnels initiales de Hi-Fi sont Dia comme chanteuse, Ilham chanteur, Febri chanteur et guitariste et Ezra chanteur ou guitariste. Le thème de l'amour est profondément ressenti sur cet album. Les adolescents ont bien réagi. Certains sont même devenus fans avec le nom Hi Friends. Bon, serviteur, voici la chanson suivante du groupe Hi-Fi, intitulée Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi? Bon écoute.
Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul kenyang. Masihkah ada dia di hatimu bertahta? Atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena bahwa aku inginkan kau ada
Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec le groupe musical Hi-Fi. La puissance de la musique du groupe Hi-Fi est dans l'arrangement de la chanson et la voix distinctive de Dea. La voix de Dea peut être caractérisée du groupe Hi-Fi, mais malheureusement, l'unité de Dea avec Hi-Fi ne dure que 7 ans. Le mars 2016 est une période pour Hi-Fi pour abandonner son chanteur qui veut poursuivre des études ainsi que développer sa carrière musicale. D'autres trois membres de Hi-Fi savent que depuis longtemps, Dea a de longues perspectives de carrière. Par conséquent, ce n'est pas difficile pour Hi-Fi pour obtenir un nouveau chanteur, à savoir Neida. Les voix de Neida sont certainement différentes de Dea, donc le style de musique de Hi-Fi est légèrement changé. Les fans de Hi-Fi, même certains qui restent fidèles, bien que certains se sentent très perdus la voix de Dea. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici les dernières chansons intitulées Remaja et Merakit Perahu. Bonne écoute et à bientôt.
Kita remaja yang sedang di mabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta. Mengulur senja menanti datang sang pemilik hati, rela menanti sejak terbit mentari. Tak sabar untuk berbagi segala isi di hati, ceriakan sanubari dan bercumbu di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja, seakan dunia milik berdua. Hati terasa merindu tanpa rasa duka, berkumandang merdu senandung asmara. Kepada yang tercinta, nada-nada tercinta, genggam pesona jiwa. Ku serahkan dan kau terima.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french. Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4 et 5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.